affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
De Canal Académie, merci de votre fidélité. Cette émission est enregistrée alors que la France fait face à l'épidémie de coronavirus. Nous espérons tout d'abord que vous-même et vos proches êtes en bonne santé et que vous supportez bien le confinement auquel nous nous astreignons, nous aussi, puisque cette émission est réalisée non en studio comme à l'accoutumée, mais au téléphone, de façon à respecter les fameux gestes barrières. Au cours de cette émission, il sera certainement question de cette épidémie et de ses conséquences. Impossible en effet de faire l'impasse. D'autant que nous recevons aujourd'hui le professeur Jean-François Mattei, qui est, comme chacun sait, amplement qualifié pour aborder cette question, puisqu'il est médecin, ancien ministre de la Santé, ancien président de la Croix-Rouge, président de l'Académie de médecine, en plus d'être membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Impossible donc de ne pas recueillir son avis sur l'épidémie en cours, même si l'objet de notre entretien sera plus vaste. Il s'agira en effet de nous interroger sur les mutations actuellement à l'œuvre en matière de santé et de médecine, sujet qu'il aborde en médecin, en citoyen et en humaniste dans un récent ouvrage « Santé, le grand bouleversement » publié ce mois-ci aux éditions « Les liens qui libèrent ». Professeur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner votre sentiment quant à la crise en cours en tant que médecin, mais aussi en tant qu'ancien ministre de la Santé? Quel diagnostic portez-vous sur celle-ci et que nous dit-elle de notre rapport à la santé?
Je pense que cette crise est plus qu'une crise, c'est une catastrophe et c'est une épreuve pour les citoyens, les humains que nous sommes. C'est une épreuve difficile parce que l'ennemi est invisible, le virus, l'évolution est imprévisible, c'est l'épidémie. Et en plus de cela, ce virus nous est inconnu, contrairement au virus de la grippe saisonnière auquel nous sommes habitués, même s'il peut changer avec des mutations d'une année sur l'autre. Je crois que cette épreuve, nous allons la surmonter, certes en payant le prix fort en vies humaines, mais nous allons la surmonter et je pense que demain ne sera plus du tout la société que nous avions l'habitude de côtoyer, dans laquelle nous vivions précédemment. Cela nous place face à des questions de réorganisation, à des questions de vraies valeurs qu'il convient de retrouver. En fait, il s'agit de redonner un sens véritable à notre société. C'est cela l'épreuve que nous traversons. Alors, évidemment, la médecine est à l'œuvre, elle est à la tâche, elle fait tout ce qu'elle peut dans des conditions extrêmement difficiles, car quoi qu'on puisse faire, et on pourra toujours reprocher de ne pas en avoir fait davantage, de ne pas avoir suffisamment anticipé, le temps de la polémique viendra, ce n'est pas aujourd'hui le moment, mais je pense que tout est fait pour essayer d'endiguer cette affection, et d'ailleurs, il suffit de regarder l'ensemble des pays qui nous entourent, de la Chine aux États-Unis, en passant par l'Europe et maintenant l'Afrique. Tous ces pays sont confrontés aux mêmes difficultés. On aurait donc tort de pointer ici ou là les défaillances, les déficits. Je crois qu'il faut être au contraire reconnaissant, terriblement reconnaissant, à tous ceux qui luttent et au premier rang desquels les soignants.
Je partage bien sûr votre avis, il faut rendre hommage aux soignants et le temps n'est pas encore celui des retours d'expérience et des enseignements à tirer de cette épreuve en termes de gestion d'organisation. Mais au-delà, vous semblez percevoir dans ces crises l'émergence d'une nouvelle vision de la société et même de l'homme, car ces crises, semble-t-il, nous renvoient aussi à notre fragilité.
Oui, mais il faut même aller encore au-delà. Je trouve que le débat écologique et l'épreuve épidémique se rejoignent à bien des égards, car d'abord, elles nous font considérer que on doit agir dans la durée et pas dans l'instant, contrairement à la pensée postmoderne aujourd'hui. Elle doit mettre fin à cet individualisme délétère qui fait que chacun veut voir ses désirs réalisés dans l'instant dès lors qu'une technique le permet. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer du lien social, le rapport à l'autre. On le voit dans l'environnement. On a besoin que chacun respecte des règles et s'engage dans une action commune pour le préserver. Et dans l'épidémie, on voit bien que si nous sommes confinés aujourd'hui, c'est certes pour nous protéger, mais aussi pour protéger les autres. Et les autres, en se protégeant, nous protègent. On découvre que nous sommes parfaitement solidaires. Et on voit bien aussi que nous avons retrouvé la valeur et le sens de la vie, le sens du combat, le sens du dépassement. Il y aura beaucoup à faire et à réfléchir sur ce lien entre l'engagement pour notre environnement et l'engagement pour notre santé au regard notamment de cette épidémie.
Il n'en reste pas moins que face à cette épidémie, les regards se tournent aussi vers les chercheurs, leur capacité à trouver des remèdes, un vaccin dans l'urgence, et que c'est l'un des traits que vous décrivez très très bien dans votre ouvrage. La médecine et la santé sont devenues au fil du temps une matière de plus en plus technique, une matière de plus en plus innovante, et le rythme des innovations s'est considérablement accéléré, en suscitant d'ailleurs de nombreux espoirs. Pour revenir à ce sujet, pouvez-vous nous dresser un panorama de ces innovations ?
Oui, alors, ce que je voudrais dire en premier lieu, dans votre question, il y a eu un premier temps parlant des chercheurs, de la science et des vaccins, la recherche du vaccin. C'est très intéressant parce que ça poursuit exactement ce que je vous répondais précédemment, à savoir le changement d'état d'esprit. Vous savez qu'on a dans notre société un certain nombre de personnes qui sont anti-vaccins, voire anti-science, anti-médecine, retrouvant en cela l'opposition aux élites. Je ne vois pas comment on pourra continuer d'être anti-vaccin alors que tout le monde aujourd'hui attend le vaccin contre le coronavirus. Et donc, on a une première bascule. On voit bien, ça rejoint ce que je vous disais. Et d'autre part, on a aujourd'hui, de la part du président de la République, de la part de l'exécutif tout entier, le recours à la science. Le président de la République répète sans arrêt qu'il consulte les scientifiques et qu'il consulte les experts pour prendre ensuite ses décisions politiques. C'est exactement le rapport qu'il doit y avoir entre le pouvoir politique et le savoir scientifique. Le savoir scientifique est là pour éclairer les décisions politiques, et je trouve que on réalise à nouveau combien politique et connaissance doivent aller ensemble. Je pense que c'est un mouvement extrêmement important. Alors, dans la deuxième partie de votre question, vous faisiez allusion à ce que l'on appelle souvent la révolution scientifique qui a commencé dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui a d'ailleurs été à l'origine de l'émergence d'une nouvelle conscience qu'on appelle la conscience éthique. Je vous rappelle que ce ne sont pas les connaissances qui sont dangereuses, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et pour savoir quel usage on va faire de telle nouvelle technique, on se pose des questions. Et c'est ça l'éthique. L'éthique est un questionnement devant cette nouvelle technique qui me place devant une situation inédite. Comment vais-je répondre en fonction des valeurs que je reconnais à l'homme ? Alors, ces techniques, elles sont nombreuses. C'est la génétique, avec tout ce que cela peut entraîner sur la procréation artificielle, sur l'intelligence artificielle et l'irruption du numérique. Je pourrais détailler extrêmement longtemps, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jamais dans l'évolution de l'homme, nous n'avions eu autant de découvertes radicales en aussi peu de temps. À tel point, et c'est la raison de mon livre, à tel point qu'on peut s'interroger de savoir si la médecine va continuer dans sa permanence depuis et même avant Hippocrate, ou si elle va connaître une rupture. Certains ont évoqué, notamment avec l'intelligence artificielle, une médecine sans médecin. Certains ont annoncé que l'intelligence artificielle allait remplacer la médecine. C'est pour tenter de répondre à ces questions que j'ai entamé cet ouvrage et que je l'ai réalisé de façon à bien comprendre comment nous allions intégrer ces nouvelles techniques et si nous resterions fidèles à l'humanisme médical de toujours.
Oui, vous avez parlé de permanence de la médecine, par-delà ces évolutions indéniables. Peut-être faut-il en revenir à cela, définir cette permanence. En quoi la médecine a-t-elle des traits permanents qu'elle ne pourrait abandonner sans se renier ?
Vous savez, l'homme est marqué par une permanence depuis son existence, dès lors qu'il a la conscience de sa finitude, la conscience de sa fragilité. Et en même temps qu'il y a une permanence humaine, il y a une permanence de la souffrance. La souffrance est consubstantielle à l'existence humaine. Et dès lors qu'il y a une permanence de la souffrance, l'homme a besoin d'un médiateur entre sa souffrance et lui. Et ce médiateur, c'est le médecin. Alors, il avait d'autres noms. Ça pouvait être un chaman, ça pouvait être un sorcier, peu importe. Ce que je sais simplement, c'est que l'homme a toujours eu besoin d'un médiateur entre son corps et lui, entre sa souffrance et lui. Dès le paléolithique, l'homme a appris à réduire des fractures. Et puis au néolithique, on a vu les premières trépanations. Et tout au long de l'évolution de l'homme au travers des siècles, on a découvert, il ne faut pas s'imaginer que la médecine est seulement moderne et avec l'AENEC et l'invention du stéthoscope, etc. C'est une histoire très longue qui s'est passée à la fois dans les pays arabes, à la fois dans l'Antiquité grecque, à la fois dans la Rome antique et naturellement chez nous avec cette synthèse. Donc je pense que la médecine accompagne l'homme dans la mesure où l'homme est vulnérable, souffrant et connaît sa finitude.
Alors, j'ai quand même l'impression qu'à travers ce terme de permanence, vous vous situez sur un point de tension qui est celui de la société. C'est-à-dire que vous avez parlé d'un homme avec des caractères stables, éternels, venus du fond des âges. L'idéologie contemporaine, que vous nommez l'idéologie postmoderne, ce serait plutôt l'indétermination, l'homme comme projet, et comme projet éventuellement personnel, chacun étant appelé à s'auto-engendrer, je veux dire, même après sa naissance, je ne parle même pas des questions du type PMA ou GPA, mais à s'auto-engendrer, à se façonner lui-même. Est-ce que du coup la médecine ne se retrouve pas au croisement des principales tensions qui se manifestent dans nos sociétés, d'autant que, simultanément, et bien sûr c'est lié, un certain nombre de techniques donnent une forme de consistance à ce rêve ou ce cauchemar?
Non, ce qui est extrêmement important, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, il est clair que l'homme n'est pas dans une situation fixiste, c'est-à-dire immobile, attendant la mort. L'homme est toujours animé de questions, de curiosités, et il se demande ce qu'il y a derrière l'horizon qui est le sien. Il s'avance et il s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'il s'avance, l'horizon se recule, qu'il découvre de nouvelles choses, et c'est une marche continue vers la découverte, parce que l'homme, par nature, est curieux, j'allais dire, pour être beaucoup plus trivial, que devant une porte fermée, l'homme a envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière, et c'est ça, la vie, naturellement. Donc, il y a ce premier aspect de curiosité, de connaissance, de recherche de la connaissance. L'homme est en permanence dans la recherche de ce qu'il est lui-même, de comprendre pourquoi sa finitude et ce qu'il y a après sa mort. Et puis, dans la question que vous me posez, il y a un deuxième élément qui, lui, alors, est absolument fondamental et qui conduit à cette synthèse que représente la médecine. Lorsque le petit homme vient au monde, il n'est évidemment ni un petit hippopotame, ni un petit rhinocéros, c'est un petit homme. Et il est hominisé du fait de sa génétique, du fait de sa biologie. Et donc, indubitablement, il y a une première étape d'hominisation liée au patrimoine génétique. Mais si vous abandonnez le petit homme à ce moment-là, il ne deviendra jamais un humain au sens où nous l'entendons. C'est l'affaire des enfants sauvages, des enfants loups. Ils ne marcheront jamais sur deux jambes, ils n'apprendront pas à manger, à parler, ni la gestuelle humaine. Bref, ils resteront totalement inachevés. Car pour être achevé après son hominisation, l'homme a besoin de s'humaniser. Et il s'humanise au contact avec ses semblables, avec l'éducation, avec la culture, avec la société. Et c'est pour ça que je suis persuadé que la médecine ne peut pas s'en tenir à la seule biologie, mais doit également reconsidérer, vraiment avec beaucoup d'importance, le milieu dans lequel l'homme vit, c'est-à-dire la société. Il y a le médical, qui est la biologie, le signe clinique, il y a le médico-social et le social, et c'est tout cela que la médecine doit embrasser, parce que l'homme est un tout.
Oui, vous nous dites que la santé, ce n'est pas seulement l'acte de soigner, c'est beaucoup plus vaste.
Ah, je crois que ce n'est pas seulement l'acte de soigner, mais il faut également accompagner. Je prends un exemple trivial. Quand un toxicomane est hospitalisé en urgence pour une overdose, il sera très bien soigné aux urgences. Mais s'il quitte 48 heures après l'hôpital en étant remis sur pied et qu'on ne le suit pas, il y a beaucoup plus de risques qu'il revienne quelques jours après avec une nouvelle overdose que de le voir s'engager dans une démarche de sevrage. Il faut donc accompagner, y compris lorsque le soin et la guérison du moment a été obtenu.
Oui, vous parlez d'une démarche en scander, prévenir, informer, dépister, éduquer et orienter. C'est donc cela la feuille de route.
Ah oui, mais c'est la feuille de route parce que je crois que la médecine ne peut pas se contenter de poser un diagnostic, de prescrire un traitement et de déclarer une guérison. Et après, au revoir. Moi, je pense que nous avons besoin, et je trouve que les orientations qu'ils ont prises aujourd'hui dans la politique de santé, encore faut-il qu'elles se concrétisent et qu'elles aillent au bout de la démarche, mais l'idée de parcours me paraît essentielle. Je pense que la vie est un parcours et la médecine ne peut pas se contenter d'une photographie. C'est un film qui se déroule et la médecine doit prendre sa place et établir des liens avec le médico-social et le social. C'est absolument indispensable. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, je reviens à l'épidémie, avec le problème des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. On voit bien que ces personnes âgées sont là parce qu'elles ne peuvent plus vivre seules, qu'elles sont fragiles, dépendantes, qu'elles ont besoin d'être entourées, mais la médecine doit toujours être là pour veiller sur elle. Donc, moi, je pense que la médecine est un tout. Je ne veux pas tout rapporter à la médecine, mais elle prend sa place dans une action commune au service de l'homme.
Alors, si la médecine et la santé sont, comme vous le décrivez très bien, et c'est un cas ressenti par tous, spécialement dans des circonstances comme celle-ci, au cœur de la société, cela signifie néanmoins qu'il est nécessaire de définir des règles communes. J'imagine que le rôle de l'éthique, justement, est de définir ces règles communes, puisqu'on ne peut pas s'en tenir simplement au désir des uns ou des autres, il faut un accord social autour des règles d'exercice.
Oui, mais au-delà des découvertes scientifiques qui ont amené à se poser ces questions, il faut bien reconnaître que nous avons aussi l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale et des horreurs, que ce soit dans les camps de concentration, la Shoah et le génocide véritable. Je n'insiste pas. Ce qui est indispensable, c'est considérer qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'homme s'est vraiment posé la question: comment des humains ont-ils pu faire ça à des humains? Et l'éthique a commencé d'émerger. C'est le Code de Nuremberg, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, et l'éthique revient à la charge avec les techniques scientifiques nouvelles. Et peu à peu émergent des principes fondamentaux. Il y en a quatre. C'est l'autonomie de la personne. Ça avait été dit dans la Déclaration des droits de l'homme en rapportant la dignité, la liberté de chacun, donc l'autonomie. Aujourd'hui, le patient n'est plus celui qui est totalement dépendant de la décision du médecin. Il y a un échange, il y a un dialogue, et le patient doit être intégré à la décision pour devenir l'acteur du combat contre sa maladie. Ensuite, il y a la bienfaisance. Eh bien, c'est le patient qui est le mieux à même de dire ce qu'il ressent comme besoin pour lui apporter du bien. Ensuite, la non-malfaisance, je n'ai même pas la peine de le détailler. Et puis enfin, la justice. Et la justice, justice distributive, s'entend. On va de nouveau la ressentir probablement lorsque l'épidémie de coronavirus va être beaucoup plus présente en Afrique, parce que malgré tout, on sent bien que cette épidémie souligne les inégalités des services de soins dont la vocation est de protéger les hommes, et que tous les hommes ne seront pas protégés face à l'épidémie de la même façon. Donc moi, je crois qu'il y a des leçons, il faudra y revenir naturellement. Nous aurons une nouvelle société qui va devoir définir ses valeurs, ses références, redéfinir un idéal et puis redéfinir ses priorités. Moi, je crois que le président de la République, dans son premier discours, je me souviens, a dit « nous ferons quoi qu'il en coûte ». Et je pense qu'il y a une différence considérable entre le prix et le coût. C'est-à-dire que la vie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et trop souvent, dans le passé, on a tenté de limiter le coût, mais en limitant le coût, on porte atteinte au prix de la vie. Or, si la vie n'a pas de prix, c'est bien un domaine qui doit échapper aux références économiques traditionnelles. Et je pense que ça aussi, ça comptera dans le futur.
Écoutez, Je vous entends, vous n'allez pas démentir ceux qui vous décrivent comme un optimiste, et c'est tant mieux. En ces temps, c'est souvent une qualité rare. Toutefois, lorsque vous avez retracé l'histoire de l'éthique, née après la Seconde Guerre mondiale, comme un antidote au péril totalitaire, ce qui est parfaitement exact, je ne peux m'empêcher de penser au nouveau défi qui est posé à l'éthique, à cette manière de voir l'homme et le monde, par un danger presque antagoniste, celui de la société des droits à des désirs. Est-ce que ce péril-là n'est pas plus délicat à affronter qu'un adversaire totalitaire, caricatural, qui s'en prend aux libertés?
Mais si, mais on a déjà abordé cette question un peu tout à l'heure lorsque j'ai dit qu'on aurait une société nouvelle. C'est-à-dire que nos droits vont probablement s'effacer devant la réalité de nos devoirs. Aujourd'hui, manifestement, nous étions dans la situation d'exiger des droits, le droit de voir ses désirs réalisés dans l'instant. Et aujourd'hui, nous voyons que ces droits s'accompagnent nécessairement de devoirs. J'ai le droit d'être protégé contre l'épidémie et j'ai le devoir de protéger les autres. Et donc, on voit bien que nous avons marché sur une jambe, la jambe des droits au cours des dernières années. C'est la pensée postmoderne d'ailleurs, le droit présent dans l'instant. et nous allons probablement rentrer dans une société qui aura une vision plus durable, dans la durée. C'est pour ça qu'on est dans la philosophie de l'environnement durable, et je pense qu'on essaiera de rentrer aussi dans la philosophie d'une santé plus durable et d'une vie au service de cela.
Alors, dans ce cadre, comment voyez-vous, parce qu'on a parlé des évolutions du rapport à la santé et de la médecine comme architecture, mais le métier de médecin et la personne du médecin dans ces évolutions.
Je pense que nous avons fait fausse route en recrutant nos futurs médecins depuis très longtemps au sortir des filières scientifiques du baccalauréat. C'est quand même assez étonnant de considérer, par exemple, que nos psychiatres sont sortis des filières scientifiques du baccalauréat. Je pense qu'il faut que l'on diversifie aujourd'hui le recrutement de nos futurs médecins selon des filières complémentaires. Je pense qu'il faut enseigner en même temps que l'intelligence artificielle, le numérique et les techniques, les sciences humaines et sociales, car je crois que pour être un bon médecin, on ne peut pas échapper à des notions de sociologie, d'anthropologie, de philosophie et naturellement la référence à l'éthique. Donc c'est la formation de nos futurs soignants qu'il faudra probablement revoir.
En d'autres termes, la médecine était également victime de l'erreur de Descartes, de voir l'homme comme une machine qu'on répare, comme une mécanique, seulement comme une mécanique. Hein. J'entends bien qu'elle l'est pour une part.
Oui, mais bon, Descartes, je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants de sa pensée, mais enfin, il pensait effectivement cette dualité entre le corps et l'esprit. À la même époque, Spinoza ne pensait pas du tout la même chose, puisqu'il pensait que les deux étaient deux parties d'un tout indissociable. Et je pense que c'est aujourd'hui la vision qui prévaut naturellement. C'est évident que l'intelligence artificielle pourrait se justifier si on considérait seulement le corps comme une machine. Mais le corps, il est intimement lié à l'esprit. Et c'est pour ça que le médecin sera l'interface entre l'intelligence artificielle et le patient, que la décision médicale sera le résultat d'une triangulation entre les données objectives de l'intelligence artificielle, entre l'interprétation et les décisions médicales proposées au troisième élément qui est le patient, car naturellement, le patient, il peut être de nature optimiste ou pessimiste, il peut être au chômage, il peut avoir eu un deuil récemment. Bref, il ne peut pas se voir appliquer automatiquement ce que dit la machine, qui en réalité donne le résultat d'études statistiques très nombreuses, et comme si c'était un patient moyen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de patient moyen. Il y a chacun dans sa singularité.
Que diriez-vous à un jeune qui s'apprêterait à embrasser la vocation, j'allais dire, le sacerdoce de médecin aujourd'hui ?
Je lui dirais que c'est un métier qui est probablement, pardon pour tous les autres, mais que c'est probablement le plus beau métier du monde, à condition d'être une synthèse entre le scientifique et l'humaniste. Et je crois que ça n'est pas contradictoire. Il peut y avoir une synthèse.
Écoutez, en vous entendant, non seulement en vous écoutant, mais en vous entendant, je me suis dit que vous aviez très bien choisi votre éditeur, parce que les liens qui libèrent, c'est en quelque sorte une partie de votre message, les liens libère.
Eh oui, c'est exactement ça, mais bon, je ne les ai pas choisis pour ce livre pour ça, j'ai déjà publié plusieurs ouvrages avec eux, et naturellement, je suis très satisfait des rapports humains qui sont dans cette maison d'édition.
En tout cas, votre livre touche des sujets cruciaux, et le titre, le nom de l'éditeur y répond. Je renvoie nos auditeurs, car nous sommes forcés à une émission plus courte que d'habitude, puisqu'elle est enregistrée dans des conditions différente que chacun comprend bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et je renvoie à nos auditeurs pour poursuivre la réflexion à votre livre, très riche, puisqu'il interroge non seulement, on l'a compris, la médecine et la santé, mais par-delà la société et la vision de l'homme. Il s'agit donc de « Santé, le grand bouleversement » par Jean-François Mattei, aux éditions donc Les liens qui libèrent. Merci beaucoup, professeur.
Merci à vous.
Et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir.
Bien sûr, merci. Thank you.